NoWatch.fm.
Incredible web shows. Cette émission vous est proposée avec la participation de la boutique NoWatch. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2012 et c'est l'épisode numéro 82. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets de manière assez simple pour que tout le monde le comprenne, mais de manière assez approfondie pour que ça reste intéressant. En tout cas, c'est l'ambition de cette émission. Aujourd'hui, on est à l'épisode numéro 82 et ça va être un épisode un petit peu spécial parce que pour diverses raisons de maladie et d'emploi du temps, je suis tout seul. C'est déjà arrivé une ou deux fois par le passé. Certains épisodes étaient pas super... pas énormément plus quand j'étais tout seul, mais les suivants ont un petit peu plus. Je vais essayer de le placer dans la catégorie seconde. Donc je vais aller assez vite et je vais parler rapidement pour que ça reste, ça ne soit pas trop soporifique, on va dire. C'est quand même un exercice difficile. J'espère que vous ne me tiendrez pas rigueur si je ne suis pas aussi bon que d'autres qui font très bien leur podcast tout seul. Alors aujourd'hui, je disais que c'était un épisode un petit peu spécial parce qu'il n'y a pas eu une activité et une actualité excessivement importante pendant les deux dernières semaines. Au-delà de l'annonce du nouvel iPad, il y a eu quelques choses qui se sont passées. Mais principalement, il y a eu il n'y a pas eu grand chose. Ce que je voudrais faire donc dans cet épisode, après avoir passé en revue les deux ou trois informations et controverses des deux dernières semaines, c'est vous parler d'un article que j'ai écrit sur mon blog en anglais. Donc peut-être que certains ne sont pas allés le voir. Et c'est un article qui parle du Mac contre le PC. Et qui essaye de faire état des différences qu'il y a dans ce combat qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'analyse qu'on pouvait en faire en 1995 ou disons il y a 10, 15, 20 ans. Parce que j'ai l'impression que les choses ont beaucoup changé et j'essaye de faire cette analyse de manière très objective. Vous pourrez me dire dans les commentaires de l'émission si je suis objectif ou pas et ce que vous pensez de mon analyse. J'espère en tout cas que ça vous intéressera. Mais avant ça, comme je le disais, on va se lancer dans une petite dans un petit passage en revue de l'actualité qui va être assez court. Alors, je vais parler un tout petit peu de l'iPad 3, mais on a tous, je pense que vous connaissez tous les détails techniques de cette annonce, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Ce que je voudrais faire plutôt, c'est parler des quelques controverses qui sont nées après l'annonce de cet iPad 3, parce que, comme d'habitude, il y a eu beaucoup de chiffres, beaucoup de détails qui ont été annoncés. Et on a certains éléments sur lesquels les gens n'étaient pas tout à fait d'accord. Donc, sans trop discuter du pour et du contre, je vais vous parler de ces détails qui ont émergé après l'annonce de, si je ne m'abuse, c'était mercredi 7. Alors d'abord, une première chose, c'est que Apple a parlé d'un chiffre qui a provoqué beaucoup de discussions et notamment au sein de l'upload live qu'on a fait en direct, donc du suivi de la conférence en direct qu'on a fait avec mes petits camarades de NoWatch et notamment Cédric Bonnet qui n'était pas tout à fait d'accord avec ce chiffre. Alors par souci d'objectivité, je vais vous en parler de manière aussi claire et simple que possible, vous exposer les détails de la discussion et vous pourrez vous-même vous faire votre idée. Ce chiffre, c'était 15 millions ou environ 15 millions parce que Apple a présenté un graphique où il montrait que ils avaient vendu cette année, en 2011, 15 millions d'iPad, un peu plus de 15 millions d'iPad, et en tout cas plus que les autres constructeurs d'ordinateurs classiques n'avaient vendu d'ordinateurs classiques. C'est-à-dire que si on prend chaque constructeur de manière individuelle, HP étant le plus grand, ils ont vendu moins d'ordinateurs que Apple n'a vendu d'iPad. Alors évidemment, ils ont inscrit sur ce graphique c'est le nombre d'ordinateurs individuels vendus, et donc ça a provoqué une sorte de petite controverse parce que d'un côté certains, et notamment Cédric Bonnet avec qui on a discuté pendant l'émission, disaient c'est vraiment comme comparer des pommes et des oranges. Un ordinateur classique c'est une chose, une tablette c'en est totalement une autre, et donc c'est une sorte de manipulation des chiffres et on essaye de leur faire dire ce qu'ils ne sont pas. C'est un point de vue effectivement qui se défend, et moi je pense qu'il y a du vrai là-dedans. Mon argumentation et le point de vue d'Apple évidemment, c'était que ce chiffre-là était impressionnant dans tous les cas, et ça donnait une sorte de contexte pour voir à quel point ce qu'ils appellent la révolution post-PC, dans laquelle le PC n'occupe plus la place, enfin l'ordinateur traditionnel n'occupe plus la place centrale de l'informatique, combien cette révolution post-PC, le monde post-PC, était en marche. Et c'est vrai que moi j'estime que ce chiffre est symbolique, puisqu'il s'est vendu plus d'iPad que d'ordinateurs, encore une fois, si on prend chaque constructeur individuellement. Si on additionne HP, Sony et d'autres, il est évident que le nombre d'ordinateurs vendus est bien supérieur au nombre d'iPad vendus. Alors, je pense que dans un certain camp, on va arrêter de parler de camp, mais une certaine vue de la chose, c'était effectivement, comme le disait Cédric, qu'on comparait des pommes et des oranges, et que ce chiffre ne voulait rien dire. Je comprends l'argumentation. Moi, je pense que c'est quand même un chiffre qui est intéressant à signaler, de se dire que ce marché, finalement, et même cette tablette de cette seule marque, se vend aujourd'hui à de telles quantités. Et c'est assez impressionnant. Mais bon, les deux arguments ont leur place, et je vous laisserai vous faire votre opinion là-dessus. Un autre truc qui a été un petit peu, disons, c'est du marketing un petit peu habile d'Apple, ils ont parlé de graphisme, de puce graphique 4 cœurs. Alors, il faut savoir que quand on parle du nombre de cœurs dans une puce, généralement, on parle d'un processeur central, le CPU. Et il y a en ce moment, évidemment, beaucoup de processeurs qui ont de multiples cœurs, 2 ou 4 sur les ordinateurs classiques. On a pas mal de tablettes avec des processeurs double cœur, qui sont bien sûr plus puissantes que les processeurs simple cœur. Et on commence à voir apparaître un petit peu partout des processeurs 4 cœurs sur les tablettes. Le processeur central de la nouvelle tablette d'Apple, du nouvel iPad, et toujours un processeur double cœur, comme c'était le cas sur l'iPad 2. Mais ils ont glissé cette dénomination de 4 cœurs parce que le processeur graphique, lui, a 4 cœurs. C'est nécessaire pour gérer le nombre de pixels accru qui est dû à l'écran Retina, dont je suis certain que vous avez déjà entendu parler. Le truc, c'est que cette dénomination 4 cœurs n'avait jamais vraiment été utilisée pour les processeurs graphiques ni dans les tablettes ni ailleurs. Il y a des processeurs graphiques pour ordinateurs de bureau qui ont beaucoup plus de cœurs que ça. On peut monter à 256, 512. Donc certes, ça veut un petit peu dire quelque chose sur les tablettes. La puissance graphique n'est pas négligeable, mais cette appellation 4 cœurs est sans doute pas tout à fait justifiée parce que la tablette en elle-même, le processeur centrale de la tablette n'est pas 4 cœurs. Donc le fait que le processeur graphique lui ait 2, 4 ou 8 cœurs n'a pas vraiment une incidence énorme sur le fonctionnement de la tablette. Elle pourrait tout à fait avoir ça a une incidence sur les graphismes, c'est certain, mais cette appellation 4 cœurs peut prêter à confusion. Là aussi, ça a provoqué quelques débats. Encore un débat. La 4G, comme vous le savez sans doute, ce nouvel iPad est 4G. Évidemment, en France, les réseaux 4G ne sont pas encore déployés. Les fournisseurs de services mobiles sont en train d'y travailler, mais c'est pas encore le cas. Aux États-Unis, la 4G est tout à fait en cours de déploiement. En tout cas, on peut déjà prendre des forfaits 4G. Le problème, c'est que en France, la tablette, et partout ailleurs dans le monde bien sûr, la tablette est également présentée en tant que 4G, mais les réseaux étant différents aux États-Unis, au Japon, en France et ailleurs, la tablette ne fonctionnera en 4G que aux États-Unis et au Japon, et pas dans les autres pays qui n'ont pas tout à fait les mêmes standards. Donc, si vous vous achetez la tablette en question en vous disant « quand la 4G sera disponible en France, je pourrai l'utiliser pour avoir des vitesses encore plus rapides », eh bien malheureusement, ça ne sera très certainement, disons 95% de chances que ça ne soit pas le cas. Donc là aussi, effectivement, Apple vend la tablette en tant que 4G en Europe et partout dans le monde, encore une fois, et elle ne sera pas compatible avec les réseaux européens, en tout cas pas en France, a priori. Bien sûr, ça ne change pas grand chose au niveau du prix. Certains se sont émus sur Twitter quand on a annoncé la chose, j'avais envoyé un lien. Et certains se sont émus en disant « Oh mon Dieu, on nous fait payer beaucoup plus cher pour avoir la 4G alors que ça ne va nous servir à rien ». Évidemment, la puce, qui est une puce Qualcomm, si je ne m'abuse, qui gère tous les réseaux, gère tout. La 3G, le Wi-Fi, le Bluetooth, bon, peut-être pas celle-là qui fait tous les réseaux exactement, mais en tout cas, elle en gère beaucoup. Et il est évident que ça ne coûterait pas moins cher de vendre une tablette qui ne fait que la 3G et pas la 4G. Donc c'est juste qu'on a une 4G bonus en plus si on veut aller aux États-Unis, qui ne sert pas à grand-chose, mais ça ne coûte certainement pas plus cher. À vrai dire, s'ils devaient fabriquer toute une autre gamme d'appareils spécialement pour la France en ne faisant que la 3G, ça leur coûterait certainement plus cher à fabriquer puisqu'il faudrait une deuxième ligne de montage, etc. Voilà pour la 4G, donc il faut le savoir, et c'était pas forcément évident quand on venait d'apprendre les informations là-dessus. Dernière petite controverse sur cet iPad et sur Apple, c'est le fait qu'ils aient utilisé dans leur nouvelle app qui s'appelle iPhoto, donc pour gérer les photos, une application de gestion et de retouche de photos. Ils utilisent par moment des cartes pour illustrer quand vous créez une sorte d'album à partir de certaines photos. Vous pouvez y ajouter une carte qui va indiquer où ont été prises les photos. Eh bien, ces cartes n'utilisent plus Google Maps, qui est déjà assez intéressant parce qu'ils commencent à s'éloigner du partenariat avec Google, peut-être. Hein, peut-être qu'à terme, ils auront leur propre service de cartes. Il faut savoir qu'Apple y travaille depuis un moment, mais en tout cas, quand on venait d'utiliser iPhoto, on s'est rendu compte que ce n'était pas les cartes de Google Maps, et on s'est rendu compte quelques heures après, parce que ça s'est entraîné sur la toile, tout le monde en a parlé, on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les cartes d'un service qui s'appelle OpenStreetMaps, qui est un service libre et gratuit, mais qui évidemment nécessite une certaine d'être en accord avec les licences d'utilisation. En l'occurrence, je pense que les licences d'OpenStreetMap nécessitent qu'on donne le crédit, c'est-à-dire qu'on dise qu'on les a utilisés et où on les a trouvés, et on n'a trouvé nulle part la mention de ces crédits dans iPhoto. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un oubli ? Ça paraît quand même être un petit peu gros pour que ça soit un oubli. Est-ce qu'il s'agit d'une intention malicieuse d'Apple ? Ça me paraît quand même être un petit peu étrange parce qu'il est évident que tout le monde s'en serait aperçu. Donc, OpenStreetMap a posté sur son blog une sorte de remerciement un petit peu ironique à Apple pour leur dire « bah merci d'utiliser nos services, vous êtes à bord avec nous sur ce train de OpenStreetMap, donc bienvenue à vous et on va discuter ensemble bien sûr pour détailler les problèmes de crédit et de licence que vous avez ou que vous devez avoir dans iPhoto, et on se doute bien qu'il va y avoir des discussions assez actives dans les coulisses entre Apple et OpenStreetMap. Il n'y a pas de raison qu'Apple ne puisse pas utiliser OpenStreetMap, j'imagine, mais ça sera très certainement sujet à discussion. Et voilà pour les quatre petits débats qui ont eu lieu après l'annonce de l'iPad 3. Il y a évidemment des choses sympathiques du côté de l'iPad 3 aussi, mais encore une fois, vous en avez très certainement été abreuvé un petit peu partout sur le web. Donc, on laissera les détails sur cet appareil pour plus tard. À vrai dire, dans Upload, quand il sera entre nos mains, on fera très certainement un test et des premières impressions. Donc, je vous invite à aller écouter Upload. Peut-être pas celui de cette semaine, mais celui de la semaine prochaine, en tout cas, pour avoir nos impressions sur l'iPad 3. Je sais que Jérôme et moi-même en ont commandé un, donc on l'aura certainement à ce moment-là. Deux autres petites news. D'abord, Google Play, qui est une sorte de transformation de tous les marchés, le Android Market et le Music Store, etc., de Google, qui se sont tous unifiés en un marché, en un market cohérent, qui s'appelle désormais Google Play. Une petite news en passant comme ça, c'est sans doute une bonne stratégie de réunir tout ça parce que c'était éparpillé un petit peu ailleurs, un petit peu partout. Et une dernière chose, c'est une grosse annonce sur les les Anonymous, en tout cas les LulzSec, qui sont un des groupes de pirates qui militaient de différentes manières, qui allaient pirater certains sites pour faire valoir leurs idées et leurs valeurs. Évidemment, vous avez tous entendu parler de LulzSec, qui sont une sorte d'émanation des Anonymous, ils sont très proches les uns des autres. Et il y a eu une annonce il y a quelques jours, 4 ou 5 jours, selon laquelle la plupart, en tout cas une bonne partie de LulzSec, 7 personnes je crois au total, auraient été arrêtées grâce à la collaboration d'un de leurs membres qui s'appelle Sabu. Ce Sabu en question aurait été arrêté il y a quelque temps par la police et il collaborerait depuis avec la police. Et ce qui a mené finalement à l'arrestation de plusieurs autres membres des Anonymous. Des LulzSec, ce sont deux groupes différents. Anonymous a répondu, bien sûr, avec la finesse qu'on leur connaît. La grosse question, c'est de savoir, est-ce que Sabu est un traître ou est-ce qu'il aurait évidemment dû collaborer? Moi, je pense que la plupart de ces gens-là sont des gens qui sont un petit peu loin de ce que représentent effectivement leurs crimes et les conséquences de leurs crimes, ou en tout cas ce ne sont pas des grands criminels qui font partie de la mafia ou qui vont dérober des banques. Ce qui est certain, c'est que quand on se retrouve dans un bureau du FBI avec une vraie peine de prison à la clé, à mon avis ils vont se mettre à table assez vite, et c'est tout à fait compréhensible. Personnellement, je comprends bien que ce brave Sabu se soit mis à table et commencé à parler, et il faudrait être bien sûr de soi pour dire qu'on ne l'aurait pas fait si on avait été dans sa situation. Bon, en attendant, il n'empêche que la plupart des Anonymous, enfin, disons que les idéaux des Anonymous et des LulzSec sont bien ça, ce sont des idées et des idéaux, et à mon avis, ce n'est pas l'arrestation de 4, 5, 6, 10 ou même 30 personnes qui vont arrêter le mouvement. Et si jamais ce mouvement doit s'arrêter, il mourra de lui-même, mais je ne pense pas que ça sera les arrestations qui provoqueront ça. Enfin, je me trompe peut-être. On verra bien comment ça évolue à l'avenir. Il y aurait d'autres choses à traiter dans la partie news de l'émission. Je vais pas tout parler de tout, mais je vous invite à aller sur le Reddit du Rendez-vous Tech, sur reddit.com/r/rdvtech. Le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. Et il y a différentes choses dont on pourrait parler, enfin que vous pourrez voir là-bas. Il y a notamment une histoire de Free qui joue un petit peu avec les DNS, c'est une histoire insolite. Il y a une panne sur Free Mobile qui a eu lieu il y a une semaine environ, un petit peu plus maintenant, pendant 3 heures. Donc bon, Free, est-ce qu'ils ont des soucis déjà? Bon, je pense que c'était juste une petite panne, ça s'est pas reproduit depuis. L'histoire de la récompense de The Artist, la récompense aux Oscars bien sûr, les récompenses devrais-je dire, qui ont provoqué une sorte de balai assez intéressant dans l'arène politique française, où tout le monde s'est félicité ou a réussi à lier le succès de The Artist et Adopi et la loi de la protection de la propriété intellectuelle dont nous ne sommes pas forcément tous fans ici. C'était quand même marrant de voir de quelle manière capillotracté tout le monde s'est mis à lier les deux et à récupérer le succès du film. Et voilà, il y a d'autres petites choses aussi à voir. Mais vous savez quoi? Moi, je vais passer maintenant à la deuxième partie de l'émission. Partie qui, j'espère, vous intéressera. Moi, c'est une réflexion que je mène depuis un moment, dans laquelle je parle du Mac contre le PC. Je précise de manière aussi objective que possible. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier le sponsor de l'émission, la boutique NoWatch. Comme d'habitude, vous le savez, la boutique NoWatch, c'est une boutique qui est accessible depuis le site nowatch.net. Vous cliquez sur le petit lien boutique et là, vous découvrez une sorte de caverne d'Alibaba de goodies aux couleurs des podcasts NoWatch. Non seulement vous pouvez vous vêtir avec style, mais en plus, vous nous filez un coup de main. Et comme vous le savez, on sera présent à la Comic-Con, il faut pas dire le là, cette année encore. Et c'est notamment grâce aux sous qu'on récupère quand vous faites des achats sur cette boutique, qu'on peut organiser notre présence à cet événement. Donc on vous remercie doublement et triplement de nous aider de cette manière. J'enchaîne donc avec ce fameux article que j'ai écrit il y a quelques jours sur mon blog patrickbeja.com pour ceux qui ne le connaissent pas. Cet article donc est en anglais, il s'intitule Mac versus PC, It's not 1995 anymore. Alors, c'était un sujet qui me tenait un petit peu à cœur et j'espère que ça vous intéressera aussi parce que il y a une sorte d'évolution chez moi, en tout cas, et je pense chez d'autres personnes, de la manière dont on considère le Mac depuis une vingtaine, une quinzaine, une dizaine d'années. Il y a, à l'époque, hein, quand j'avais une vingtaine ou 25 ans, ou même 30 ans, et oui, je suis un petit peu plus vieux que ça, le Mac était pour moi... n'avait pas vraiment d'énormes avantages à part pour quelques cas spécifiques chez les graphistes ou chez, pour la publication. Disons que j'avais du mal à recommander le Mac parce que pour moi, c'était une sorte de PC un petit peu plus cher et sans... enfin, même beaucoup plus cher parfois et sans gros avantages. Moi, je fabriquais moi-même mes PC, hein. J'allais à la rue Montgallet pour ceux qui connaissent à Paris. J'achetais les parties moi-même et je le montais. Ça me coûtait une somme assez faible. Et j'avais un PC qui fonctionnait très bien. J'arrivais pas à voir l'avantage que pourrait ni pour moi, parce que c'est important de séparer les deux, hein, ni pour moi ni pour quelqu'un d'autre, avoir le Mac. Je vous rappelle que je parle de il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis plus tout à fait dans ce cas-là. J'ai l'impression que, disons que je recommande un petit peu plus le Mac et je le trouve beaucoup plus intéressant qu'il ne l'était à l'époque. Et j'ai essayé d'explorer, une sorte d'expérience intellectuelle, d'explorer les raisons qui font que j'ai changé d'avis parce que...
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Évidemment, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais il y a aussi un élément important, c'est que il doit y avoir des raisons qui m'ont poussé à changer mon idée sur le Mac. C'est pas uniquement parce que bon, maintenant ils font des iPhones et des iPads qui me plaisent. Le Mac, j'en ai un depuis un moment, ça me plaît pas spécialement plus que ça, en tout cas pas pour moi. Mais il y a des raisons qui font que j'ai changé d'avis sur le Mac et je me mets à le recommander peut-être un petit peu plus aujourd'hui qu'avant, dans certains cas, ou en tout cas que je le trouve dans la plupart des usages au moins à égalité, si on prend en compte le prix et la facilité d'utilisation, etc. À égalité avec le PC. Donc pour certains, je conseillerais un PC, pour certains, je conseillerais un Mac. Il y a une vingtaine d'années, pour moi et pour beaucoup de gens, ça n'aurait pas vraiment été une option valable d'acheter un Mac. Alors, mon idée, j'ai détaillé 8 points qui font que le monde en fait a changé. C'est-à-dire que c'est pas forcément les gens qui étaient fans de PC qui se sont tout à coup mis à aimer les Macs sans raison. C'est que, à mon avis, il y a eu un changement général, enfin une série de changements dans le monde et dans l'industrie de l'informatique qui font que l'analyse qu'on peut faire de cette industrie est différente aujourd'hui de ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Je commence par le premier point, l'avènement d'Internet. Évidemment, quand on avait, enfin, il y a une vingtaine d'années, Internet en était à ses balbutiements. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui occupe notre vie au quotidien. Et l'utilisation qu'on fait d'un ordinateur est évidemment extrêmement différente parce qu'on s'en sert énormément à 90% pour Internet. À l'époque, un ordinateur, ça servait à faire Excel, Word, même pas vraiment d'email. Il n'y en avait pas énormément à cette époque. Donc Excel, Word, c'était une utilisation très spécifique. Et les gens pouvaient utiliser n'importe quelle machine, finalement, pour, enfin, une machine bon marché qui n'était pas spécialement facile à utiliser. Si vous saviez utiliser Word, bah voilà, vous saviez utiliser Word, peu importe ce que vous faisiez ailleurs, c'était pour une tâche spécifique. Aujourd'hui, on l'utilise pour l'email, Facebook, YouTube, et la plupart des gens l'utilisent quotidiennement pour faire pas mal de choses dans ce domaine. Donc, l'égalité entre les deux est un petit peu revenue parce que les deux environnements, que ce soit Mac ou PC, peuvent faire ces deux choses de manière à peu près égale. À l'époque, bien sûr, il y avait Word ou Excel sur Mac, mais c'était pas vraiment une machine. On n'avait pas besoin d'avoir des fioritures comme on en avait sur Mac pour utiliser Word et Excel. Donc aujourd'hui, on pourrait dire effectivement, on n'a pas besoin de fioritures pour utiliser le PC ou le, pardon, pour utiliser l'email, Facebook ou YouTube. C'est pas faux, mais disons que les deux le font exactement de la même manière, de manière aussi efficace. Donc la différence s'efface un petit peu à ce niveau-là. L'utilisation, une des utilisations principales, est disponible de manière absolument égale sur les deux machines, enfin sur les deux environnements. L'autre, le deuxième point, c'est le digital hub, c'est-à-dire le hub digital qui fait que énormément de notre vie fait désormais partie de l'informatique, c'est-à-dire que toutes nos photos, notre musique, nos vidéos et tout ça sont dans l'informatique. À l'époque, on avait des CD, on avait des photos qu'on imprimait en 95 ou même en 2000. Avoir toute sa musique sur un ordinateur, on en était encore au balbutiement. La photo, pareil, et la vidéo, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, l'ordinateur s'est vraiment infiltré dans nos vies et il est difficile de concevoir à quel point c'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Les ordinateurs, il y a une vingtaine d'années, étaient vraiment des choses spécifiques utilisées principalement pour le travail et utilisées pour des tâches très précises. Et encore une fois, comme c'est le cas pour Internet, le Mac fait les choses assez bien. Peut-être même dans ce cas-là, à mon avis, pour les utilisateurs lambda, un petit peu mieux que le PC, avec l'orientation que lui a donné Steve Jobs en 2000 à peu près, cette histoire de digital hub. Et le Mac est très propice à ce type d'utilisation. Si vous voulez une machine simple qui gère votre vie digitale, eh ben, a priori, le Mac est un petit peu mieux pour cette utilisation. Ces deux points, l'histoire de l'Internet et du Digital Hub, du Hub Digital, ce sont deux points qui me font penser que le mot ordinateur ne veut plus dire tout à fait la même chose que ce qu'il voulait dire il y a 15 ou 20 ans. Réfléchissez-y deux secondes, c'est-à-dire que il y a 15 ou 20 ans, ce qu'on faisait avec un ordinateur était très différent de ce qu'on fait avec un ordinateur aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ce qu'on appelle ordinateur, pour moi, le Mac et le PC sont beaucoup plus à égalité qu'ils ne l'étaient avant. Avant, on voulait beaucoup de programmes et on voulait peut-être un truc bon marché parce qu'on voulait faire des choses spécifiques. Aujourd'hui, n'importe qui va vouloir un ordinateur, il veut un truc simple et il veut un truc qui marche pour ces quelques tâches spécifiques, pour ces quelques tâches dont je parlais. Donc, dans ces conditions, à mon avis, les deux machines sont un petit peu plus à égalité qu'elles ne l'étaient à l'époque. Il y a d'autres éléments, bien sûr, hein, ça ce sont deux éléments spécifiques, mais il y en a d'autres, et notamment celui du prix. Et là, j'ai peut-être une impression, c'est peut-être mon impression à moi, mais j'ai vraiment l'impression que les Mac de l'époque étaient beaucoup plus chers comparés aux PC qu'ils ne le sont aujourd'hui. Bien sûr, les Mac sont toujours plus chers, disons 40 à 50 à 80% de plus qu'un PC équivalent. Moi, quand j'achetais mes PC que je montais moi-même, ça me coûtait le quart ou le tiers ou le quart du prix d'un Mac. Aujourd'hui, une machine plus ou moins similaire coûte, version Mac, toujours plus cher, encore une fois, mais relativement par rapport à la version de l'époque, la différence n'est pas aussi énorme. Donc, on peut peut-être un petit peu plus justifier de payer un petit peu plus cher pour gagner un peu en simplicité que ça n'était le cas à l'époque où il fallait payer 2, 3, 4 fois plus cher pour gagner en simplicité si on voulait ce type de fonctionnalité. Il y a un autre élément encore, le fait que le hardware, le matériel soit devenu très similaire entre le Mac et le PC. Je me souviens de l'époque où Steve Jobs parlait avec émotion du Power PC. Au début, évidemment, bon, c'était le processeur qui équipait les Macs à l'époque. Au début, le Power PC était plus ou moins équivalent au processeur Intel qui équipait principalement les machines Windows et PC. Et puis au fur et à mesure que les années ont passé, le Power PC... Motorola, qui fabriquait le PowerPC, Motorola, IBM, etc., n'ont pas réussi à suivre au niveau de l'ingénierie du processeur. Et je me souviens donc effectivement de Steve Jobs qui était monté sur scène à un moment et qui disait « Voilà, on va mettre maintenant 2 PowerPC dans toutes les machines, voire 4 PowerPC dans toutes les machines. » Et j'avais des amis qui étaient plutôt aficionados du Mac et qui me disaient « Ah, mais tu vas voir, c'est le futur de l'informatique. Toutes les machines auront 2 ou 3 ou 4 ou 6 ou 8 processeurs. » Évidemment, c'était complètement ridicule. Si une machine peut tourner parfaitement bien avec un seul processeur et qu'elle coûte moins cher, personne ne va s'amuser à en mettre 4 ou 8 juste pour le plaisir. Évidemment, il y a des utilisations spécifiques qui en ont besoin. Mais c'était complètement de la rhétorique Apple. N'oubliez pas qu'on parle de processeurs, hein, de vrais processeurs, pas de cœurs. On a des processeurs à plusieurs cœurs, mais là, on, à l'époque, on nous vendait l'avenir de l'informatique comme ayant plusieurs processeurs dans une seule machine. Évidemment, tout ça s'est cassé la gueule le jour où Apple a annoncé, sous les tonnerres d'incrédulité des plus grands fans, le fait qu'ils allaient passer chez Intel et qu'ils allaient abandonner le PowerPC. Alors, au-delà du petit retournement de veste amusant, ça veut surtout dire qu'aujourd'hui, les machines sous Windows, donc les PC et les Mac, ont le même matériel, et les guerres qui consistaient à dire « Ah, celui-là, il tourne mieux que celui-là parce qu'il a un processeur différent » n'ont plus vraiment d'importance, à vrai dire, n'ont plus du tout d'importance, puisque les deux machines sont sur le matériel beaucoup plus similaire qu'elle ne l'était. Là encore, les différences s'effacent entre le monde du Mac et le monde du PC. Il y a un autre argument, c'est mon cinquième argument, qui est que celui des performances techniques, l'argument des performances techniques n'est plus vraiment important aujourd'hui. Toutes les machines, même une petite machine d'entrée de gamme, aura suffisamment de puissance pour faire l'immense partie des tâches qu'on fait au quotidien et que la plupart des gens font. Que ça soit un Core i3 ou un Core i7, finalement la machine tournera très bien pour faire tourner YouTube et même afficher des vidéos HD, pour afficher vos emails, pour afficher vos photos. Donc là encore, l'importance du matériel a été vraiment atténuée, encore une fois à part pour des cas spécifiques. Donc l'importance du matériel a été vraiment atténuée. Et c'est un élément de plus qui fait que la différence qu'on pouvait citer à l'époque, quand on disait, quand on avait nos guerres de clochers, oui, le Power PC du Mac est tellement minable qu'il ne peut pas faire tel truc sous Photoshop, et les autres disaient, oui, mais le Intel, il est pas bien parce que, voilà, il y a ci et ça qu'il peut pas faire, et ben tout ça, là encore, n'a plus vraiment de raison d'être. Un autre élément important, c'est la question du jeu, parce que le PC a bien sûr été la plateforme préférée pour un certain type de joueurs depuis très longtemps. Et le Mac a beaucoup souffert du fait, enfin dans le domaine des jeux, hein, bien sûr, a beaucoup souffert du fait qu'il n'y était, ça n'était pas une plateforme de jeux vraiment fournie. Et la faible part de marché d'Apple dans ce domaine faisait que les développeurs développaient rarement sur macOS. Et bien aujourd'hui, dans les 10 dernières années, il s'est passé des choses intéressantes. Non pas que les jeux soient arrivés sur le Mac, il y en a quelques-uns bien sûr, mais c'est pas ce dont je veux parler. Ce que je veux dire, c'est que les consoles ont pris une importance vraiment importante, et surtout, les jeux sont désormais de plus en plus multiplateformes. Donc, sur console, on va avoir une grande partie des jeux qui seront aussi sur PC. Je parle pas de certains, évidemment, certains fans de jeux spécifiques vont me dire on ne peut pas jouer sur console, c'est pas le vrai jeu, mais peu importe. Ce qui est important, c'est que ces jeux en question sont bien présents et vont satisfaire les besoins de jeux de quelqu'un qui voudra jouer à certains d'entre eux. Et ça veut dire en fait que si on a un Mac et une console, et la plupart des gens qui sont intéressés par le jeu auront sans doute une console aussi, donc si on a un Mac et une console, on va pouvoir satisfaire ses besoins de jeu. Alors que il y a un certain temps, il y avait des jeux bien sûr sur console, mais certains autres étaient impossibles à avoir sur console. Aujourd'hui, entre un Mac et une console, on peut avoir un panorama assez vaste du monde du jeu et on n'a plus forcément ce besoin impérieux de PC pour jouer. Bien sûr, certains resteront complètement exclusifs au PC et il y aura des gens qui auront toujours besoin du PC. Mais je veux dire, d'une manière générale, la différence, encore une fois, qui était très très nette à l'époque, n'est plus aussi nette aujourd'hui. Encore une chose, le design industriel des Mac a, à mon sens, beaucoup évolué. Là, c'est peut-être une affaire de goût parce que les fans de Mac disaient toujours que le Mac était mieux designé que les autres. Franchement, sur les Mac de l'époque, et à vrai dire même jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, j'étais pas super séduit par le design des Mac. C'est seulement au moment de l'arrivée des Mac unibody, vous savez, portables qui sont entièrement moulés dans une seule pièce ou quasiment moulés dans une seule pièce, que j'ai trouvé ce design vraiment intéressant. Et je serais prêt à payer un petit premium, une somme en plus, pour avoir une machine qui est aussi belle. À l'époque, c'était pas forcément le cas. Et bien sûr, ça va pas être le cas de tout le monde. Il y a des gens qui sont très contents avec une machine qui ressemble à un PC normal. Et c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est juste que cet avantage de design qui, à mon sens, et c'est très personnel, n'était pas vraiment là à l'époque, aujourd'hui est beaucoup plus présent. Les machines comme les MacBooks, les MacBook Air, et même les iMac qui sont faits en un seul écran, sont beaucoup plus beaux que ce qu'on pouvait trouver il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années du côté d'Apple. Pareil avec le trackpad qui est le trackpad d'Apple qui est un vrai avantage pour les portables par rapport à leurs équivalents PC. Donc il y a quelques éléments de design qui font que le Mac est devenu, à mon sens, un petit peu plus intéressant qu'il ne l'était à l'époque. Et là encore, peut-être que c'est personnel, mais j'imagine que d'autres personnes qui étaient vraiment adeptes du PC à l'époque trouve aujourd'hui le Mac un petit peu plus séduisant par cet aspect. Et enfin, j'arrive à mon dernier point, c'est un point extrêmement important aussi, c'est peut-être même le plus important, le fait que macOS, à l'époque, était vraiment, vraiment pas bon. À l'époque où macOS est sorti, il y a très longtemps, en 1984, c'était très certainement une innovation. Une innovation qui arrivait en fait de chez Xerox, hein, on va pas le repartir dans le débat, mais dans le monde de l'informatique personnelle, l'interface graphique avec la souris et les fenêtres était une vraie nouveauté et le Mac avait une avance sur la concurrence dans ce domaine. Windows n'étant sorti que quelques temps après. Ça, c'était en 84. À l'époque dont on parle, disons 95, 90, 97, 99, on était passé à macOS 7, 8, 9, et franchement, pour avoir passé du temps avec cet OS, je peux vous assurer qu'il était vraiment, vraiment pas bon. Il était devenu énorme, super lourd, il plantait tout le temps. Si vos amis vous disaient que le PC plantait et que le Mac ne plantait pas à l'époque, franchement, je pense qu'ils n'avaient pas exactement une bonne appréhension de ce qui se passait sur Mac et sur PC. Mais bon, donc cet OS du Mac était à mon sens vraiment pas à la hauteur de ses ambitions et il a fallu attendre OS X ou OS 10 pour réobtenir un OS qui était performant et en tout cas qu'on pouvait défendre. Évidemment, OS X, quand il venait de sortir, il était peut-être même un tout petit peu trop ambitieux pour les performances graphiques qu'il avait. Je me souviens de certains problèmes qu'on pouvait avoir. Mais en tout cas, au-delà du fait de dire que Windows 7 ou OS X ou Windows Vista, lequel est mieux, à vrai dire, moi, je trouve pas tellement que OS X soit mieux que Windows. Mais la question, c'est que OS 8 ou 9 à l'époque était, à mon sens, vraiment vraiment pas bon. Voilà, je vais m'en tenir là. Donc là encore, il me paraissait difficile de recommander un Mac à qui que ce soit avec tous les autres arguments que j'ai, tous les autres éléments que j'ai donnés, étant donné qu'en plus l'OS était pas super performant et planté de mon expérience autant que Windows qui plantait lui aussi beaucoup plus qu'il ne plante aujourd'hui. Et donc voilà, ce sont mes 8 arguments. La question de l'utilisation, Internet et le Digital Hub, la question des prix, la question du hardware qui est similaire, la question des spécifications techniques, des performances techniques qui sont plus importantes, le fait que les jeux soient disponibles ailleurs que sur PC, tout joueur aura une console, ou la plupart d'entre eux en tout cas, le design qui a fait de gros progrès et qui brille un petit peu plus sur le Mac à mon sens, et macOS qui était vraiment pas bon à l'époque. Donc, ça fait quand même beaucoup d'éléments et beaucoup de changements qui me poussent à dire que le Mac, comparé au PC, ce combat, si on peut l'appeler comme ça, n'est plus tout à fait le même. La comparaison, en tout cas, n'est plus tout à fait la même. Et à mon sens, aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire que le Mac est un choix et toujours le bon choix, bien au contraire. À vrai dire, moi, j'ai un Mac depuis, ça doit faire un an et demi, et je suis pas totalement amoureux de cette machine. Il est bien, il y a certaines choses qui fait pas mal. Ma machine principale est mon PC, à mon avis, va rester mon PC pendant un bon moment. Il est bien pour certaines choses, il est pas bien pour d'autres. Il a des problèmes, c'est un OS et un ordinateur, comme tous les autres, il a des problèmes. Mais je suis pas en train de dire que c'est la réponse à tout. Par contre, ce que je suis en train de dire, c'est que, étant donné tous ces éléments différents, je suis aujourd'hui beaucoup plus prompt à recommander un Mac pour certaines personnes s'ils veulent peut-être un petit peu plus de simplicité et qu'ils ont un petit peu plus d'argent. Moi, je dirais, oui, aujourd'hui, un Mac est une bonne alternative, alors qu'à l'époque, je n'étais pas tout à fait d'accord. Et voilà, c'est donc ma conclusion et mon explication sur cette analyse que je fais aujourd'hui, qui est différente de l'analyse que je faisais à l'époque. Je relis la fin de mon article pour voir si je n'oublie rien. L'autre élément important, c'est effectivement le fait que le terme ordinateur ne correspond plus exactement à ce qu'il était à l'époque. Hein. Souvenez-vous ce que je disais, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas la vie digitale et les éléments digitaux de photos, de musique et tout ça sur les ordinateurs. Donc, on n'avait pas du tout la même utilisation. Et le Mac a toujours eu comme but idéal d'être une machine simple. C'était presque une réponse à un problème qui s'était pas encore posé à l'époque. Pourquoi aurait-on besoin d'une machine simple alors que les seules personnes qui utilisent des ordinateurs le font pour des tâches qui sont tellement spécifiques qu'ils doivent les apprendre de toute façon. La machine simple, finalement, n'a été la réponse à la question de l'informatique que depuis quelques années, quand l'informatique a eu besoin de simplicité parce que tout le monde l'utilisait tous les jours. Bon, je suis sûr que tous ces débats en provoqueront d'autres, et je suis sûr que vous avez envie de me donner votre avis sur certains des éléments que j'ai énoncés aujourd'hui. Donc je vous invite à aller sur le blog de l'émission, sur nowatch.net/rdvtech, si je ne m'abuse. Je vais vérifier que c'est bien cette URL courte que j'ai mise en place, c'est bien ça, rdvtech. Et vous pourrez avoir donc l'article de cet épisode, et vous pourrez y laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mon long laïus sur le terrible combat entre les PC et les Mac, qui sont, faut-il le rappeler, les seuls vrais ordinateurs dans ce monde de tablettes trop simples et d'iPhone ridicules qui ne vous permettent même pas de lancer deux applications à la fois. C'est un autre débat dans lequel on pourra se lancer à un autre moment. Je fais un petit peu mon troll, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant dont on pourra discuter une autre fois. Donc, comme je le disais, vous pouvez aller sur le site de l'émission, le site, pardon, de No Watch, et vous trouverez l'article de l'épisode pour me laisser vos commentaires. Moi, entre-temps, je vais vous dire au revoir pour 2 semaines, et je reviendrai bien sûr dans 2 semaines pour un autre épisode un petit peu plus classique du Rendez-vous Tech. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura distrait. Et je vous dis donc à dans 1 semaine, et grosse bise. Ciao à tous. J'ai dit à dans une semaine ou à dans deux semaines? Oh, je crois que j'ai dit à dans une semaine, mais je suis vraiment trop con.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.